La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Patrick Saporito, faisant partie de l'équipe des responsables de l'église baptiste de Toulouse Métropole, EBTM. Avez-vous déjà connu ce sentiment qu'est la peur ? Ou bien êtes-vous de ceux qui disent « moi peur jamais, même pas peur » ? Êtes-vous de ceux qui se disent « de toute façon je suis comme ça, je ne pourrai jamais m'en débarrasser, j'ai appris à vivre avec ma peur » ? Ou êtes-vous de ceux qui connaissent leur peur, qui en souffrent, mais qui aspirent à les combattre et à les vaincre ? Cet après-midi, je vous propose de lire dans la parole de Dieu le psaume 34 qui parle de la peur. Ce psaume a été écrit par un homme de Dieu qui a pourtant connu la peur, il s'agit de David, mais qui en a été délivré par Dieu et qui brûle de nous partager la joie de sa délivrance vécue pour que nous soyons aussi délivrés de nos peurs. Donc lisons dans la parole de Dieu le psaume 34. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Jusqu'ici notre lecture de la parole de Dieu. Alors oui, nos peurs... Ce sont des géants, mais des géants possibles à vaincre. Comment est-il possible de les vaincre ? Je vous propose de voir cela en trois points. Premièrement, examinons quelles sont les causes et les conséquences de nos peurs. Deuxièmement, regardons quelle est la réponse de Dieu à tous ceux qui le cherchent. Et troisièmement, eh bien regardons la réponse de l'homme à Dieu. Donc premièrement, voyons les causes et les conséquences de nos peurs. La définition de la peur d'après Wikipédia est celle-ci. La peur est une émotion ressentie, généralement en présence ou dans la perspective d'un danger ou d'une menace. En d'autres termes, la peur est une conséquence de l'analyse du danger et permet au sujet de le fuir ou de le combattre. De cette définition, on peut déduire que ceux qui disent ne jamais connaître la peur sont des inconscients qui ne prennent pas le temps d'analyser la situation. Mais pour les autres, une question se pose alors. Notre analyse du danger est-elle juste ? En d'autres termes, la menace est-elle réelle ou imaginaire ? Ou réelle, mais disproportionnée ? Une étude a montré que près de 95% de nos peurs sont infondées. Même en parfaite sécurité, ceux qui ont peur des voleurs souffrent autant que ceux qui se font vraiment cambrioler. En grec, la peur se dit « phobie » et a donné des mots comme « claustrophobie », peur d'être enfermé, « arachnophobie », peur des araignées, « agoraphobie », peur de la foule, « acrophobie », peur du vide. De la hauteur. Il existe d'autres peurs, comme celle de manquer du nécessaire, ce qu'on a observé au début de la crise du Covid-19, lorsque les gens se sont rués dans les magasins. ou encore la peur de ne pas être à la hauteur, ou la peur de souffrir, ou la peur de vieillir. On pense bien sûr à la peur d'être atteint du Covid-19, soit pour soi-même, soit pour nos proches. Et ultimement, la peur de la mort. La peur peut se manifester physiquement par une accélération des battements de cœur, une difficulté à respirer due à une angoisse, des genoux qui s'entrechoquent, des tremblements, un bégaiement, une paralysie. Autant de symptômes extérieurs qui montrent la réalité de cette émotion intérieure qu'est la peur et qui nous touche tous. Qui peut dire qu'il n'a jamais connu la peur? Alors quelles peuvent être les causes de nos peurs? Eh bien, pour cela, remontons jusqu'au péché originel. Parce qu'avant, cette émotion n'était pas connue. Jusqu'au moment où Adam et Ève ont désobéi au seul commandement de Dieu de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque Dieu se promenait dans le jardin et a demandé à Adam « Où es-tu ?», Adam a répondu en Genèse 3:10 « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » La première peur était née, celle envers Dieu. Peur née de la désobéissance à ses commandements que la Bible appelle péché. Le péché entraîne donc la peur et inversement, la peur peut entraîner le péché. En effet, c'est aussi la peur qui est à l'origine d'actes peu glorieux de David qui a écrit ce psaume 34. Mais au fait, on parle bien du même David ici qui avait osé confronter le géant Goliath et qui l'avait terrassé par sa foi en Dieu? Oui, c'est bien le même David qui a connu non pas une, mais des frayeurs, même après sa glorieuse victoire qui avait fait sa réputation. Et oui, David restait un homme avec ses forces et ses faiblesses. Pour situer le contexte de ce psaume, eh bien, donc c'est David qui l'a écrit, David n'était pas encore roi d'Israël et il fuyait le roi Saül qui était jaloux de lui à cause de sa popularité suite à sa victoire sur Goliath. Il était jaloux de David au point qu'il voulait le tuer. Et déjà dans sa fuite, eh bien, David avait menti au prêtre Ahimélec sur l'objet de sa fuite, avant de faire une tentative désespérée de se réfugier chez les Philistins. Vous pouvez lire cela en 1 Samuel chapitre 21. Mais les Philistins ont reconnu celui qui avait tué leur champion, le géant Goliath. Alors, se sentant menacé, et pour échapper à Achish, le roi des Philistins, David avait faim d'être fou. Et Achish a eu pitié de lui et l'a fait partir, faisant comprendre qu'il ne manquait pas de fou. David a ainsi échappé à la mort, après avoir eu, je cite, une très grande peur du roi, selon l'expression dans 1 Samuel 21:12. Et il est parti se réfugier dans la caverne d'Adoulam, d'où on suppose qu'il a écrit ce psaume 34. Est-ce que vous avez remarqué que souvent, nos peurs sont petites au début, mais grandissent en nous au point de devenir des géants, parce qu'on ne les a pas combattues dès le départ, ou on les a combattues, mais pas avec les bonnes armes. La peur nourrit la peur et est contagieuse. Il s'agit d'un cercle vicieux. Alors comment en sortir? Quel est le remède? Que faire face à nos peurs? Eh bien, on peut relever au moins deux attitudes opposées l'une de l'autre face à la peur. La première est ce qu'avait commencé à faire David en mentant au prêtre. Et oui, la peur peut conduire à pécher. D'ailleurs, face à la crise du Covid-19, on a assisté aussi bien à des attitudes égoïstes qui consistaient à vider les rayons des magasins qu'à des attitudes altruistes comme celle qu'a eue le personnel soignant prêt à risquer sa vie pour soigner les personnes contaminées. La deuxième attitude, la bonne cette fois face à nos peurs, consiste déjà à ne pas les nier, à ne pas se mentir à soi-même, mais à les reconnaître honnêtement quand elles sont là et à les identifier. David, tout vainqueur de Goliath qu'il était, a reconnu qu'il a eu non pas une, mais des peurs. Mais ça ne servirait à rien de s'arrêter là, juste à les identifier. La prochaine étape consiste à les apporter à Dieu, à chercher refuge en Dieu, à chercher Dieu en fait, ce qu'a fini par faire David. D'ailleurs, l'expression « chercher Dieu » revient 3 fois dans ce psaume, au verset 4, au verset 8 et au verset 10. Alors, eh bien, David a prié. Et il n'y a qu'une lettre qui différencie prier de crier. En effet, David a même crié à Dieu. La prière la plus courte, c'est « Au secours Seigneur », qui est un cri à Dieu. Alors, est-ce que le Seigneur nous entend et répond à nos cris de détresse? Eh bien, je vous propose d'aborder le deuxième point. Quelle est la réponse de Dieu à ceux qui le cherchent? Pour répondre à cette question, est-ce que le Seigneur répond? Eh bien, regardez avec moi les versets 4, 16, 15 et 17, qui sont autant de promesses de Dieu. Et Dieu tient toujours ses promesses. Verset 4, je cite, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Verset 6, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Verset 15, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Verset 17, « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses. » Fin de citation. Alors oui, le Seigneur a des oreilles et entend quelqu'un qui crie à lui. Et il a des yeux et voit ce qui le cherche. Il n'est pas une statue qui ne voit rien ni n'entend rien. Lorsque nous tournons nos regards vers Dieu, eh bien Dieu tourne ses regards vers nous. Il nous délivre et sa délivrance est totale. Comme en témoignent les expressions de ce psaume 34 telles que « tous »,« toutes », »,« rien », »,« aucun », »,« toujours ». Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Quand Dieu sauve, c'est à 100%. David, parce qu'il avait vécu une totale délivrance, pouvait nous lancer à nous cette invitation au verset 8. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Fin de citation. Littéralement, goûtez et voyez, savourez la bonté de l'Éternel, vivez-la. David nous invite à ne pas seulement connaître une théorie sur Dieu, mais à connaître Dieu lui-même par une relation personnelle avec lui qui fait appel à nos sens. Il nous invite à tourner nos regards vers celui qui nous voit et à tendre l'oreille vers celui qui nous entend. Dieu, pour jouir du bonheur, expression du verset 12. Et d'ailleurs, c'est le même mot bonheur qui désigne la bonté de Dieu au verset 8 et le bonheur de l'homme au verset 12. Comme quoi, notre bonheur dépend de notre relation à Dieu. Mais peut-être êtes-vous dans la détresse aujourd'hui et vous vous dites, où est la bonté de Dieu? Je ne la vois pas, je ne la vis pas, je ne la sens pas, je ne suis pas heureux. J'en ai marre d'être confiné, d'être privé de liberté. Et puis en même temps, j'ai peur du Covid-19. Alors votre peur vous paralyse et vous enlève votre joie. Et peut-être que vous vous dites, Dieu ne me répond pas parce que je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez juste. Et vous avez raison. Personne n'est assez juste par lui-même pour plaire à Dieu. Mais attention, Dieu peut quand même répondre. Personne n'est assez juste par lui-même pour plaire à Dieu. En effet, si le Covid-19 ne nous a pas tous atteints, il y a un mal bien plus grand qui nous a tous atteints, celui-là, et dont nous avons tous besoin d'être guéris, un mal qui nous sépare de Dieu, un mal qui mène à la mort d'ailleurs. Il s'agit de ce que la Bible appelle le péché. Vous vous rappelez, c'est la désobéissance à Dieu, à l'origine de la première peur chez Adam et Ève, et qui nous a tous contaminés, car nous avons tous désobéi au commandement de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Pourtant, Dieu a manifesté son immense bonté envers nous pour nous rendre possible une relation personnelle avec lui, parce qu'il nous aime. C'est notre péché qu'il n'aime pas. Et ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu, parce qu'il est un Dieu saint. Alors, comment rétablir cette relation? Eh bien, la solution ne pouvait venir que de Dieu seul. En effet, Jésus, le Fils de Dieu, a accepté, en accord avec son Père Dieu, de venir prendre sur la croix la punition que méritaient nos péchés. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, je lis « Celui qui n'a point connu le péché, donc Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Fin de citation. Les versets 15 et 16 du psaume 34 disent, je cite, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. » Fin de citation. Ce qu'il y a d'extraordinaire ici, c'est que Jésus, le Fils unique et parfait de Dieu, lui, le seul juste, a accepté d'être traité comme un malfaiteur pour pouvoir justifier et pardonner tous ceux qui croiraient en lui. Alors qu'il était sur la croix, Dieu a détourné momentanément son regard de son propre Fils, car il portait les péchés du monde entier. Cela afin de pouvoir ensuite pencher son regard, ses yeux, ses oreilles en permanence sur tous ceux qui croiraient en lui. Alors oui, être juste aux yeux de Dieu, eh bien, c'est être déclaré non coupable parce qu'on a cru en son Fils, Jésus-Christ, qui a payé pour nous. Le verset 22 de notre psaume d'aujourd'hui l'annonçait déjà, bien avant la venue de Jésus. Je cite « L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera tenu pour coupable. » Fin de citation. Et peut-être avez-vous le cœur brisé parce que quelqu'un vous a fait mal, ou peut-être parce que vous avez fait quelque chose de mal dont vous avez honte aujourd'hui. Et cela vous rend craintif. Eh bien, voilà une autre promesse pour tous ceux qui cherchent Dieu sincèrement. Au verset 18 du psaume 34, je cite « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Fin de citation. Le mot « brisé » ici est le même mot qu'au verset 20, je cite « Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. » Fin de citation. Ce verset fait référence de façon prophétique à Christ, l'agneau de Dieu, sur la croix, et est cité dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 36, pour désigner l'agneau pascal dont aucun os ne devait être brisé d'après la loi. Effectivement, Dieu a veillé à ce qu'aucun os de son Fils, l'agneau de Dieu, ne soit brisé par les soldats. Il a tenu sa promesse. Alors, celui dont aucun os n'a été brisé, Jésus, et qui est ressuscité, tiendra aussi sa promesse de guérir ceux qui ont le cœur brisé pour les restaurer totalement. Alors, eh bien, si on se demande quel est le contraire de la peur, eh bien, ce n'est pas le courage. On comprend que le contraire de la peur, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le courage, mais c'est plutôt la paix. La paix d'un cœur qui se sait pardonné. Comment l'obtenir, cette paix? Eh bien, elle vient d'une confiance inébranlable en Dieu et dans son œuvre de salut en Jésus-Christ. Il suffit de demander pardon à Dieu et de croire en son Fils, Jésus. Dieu attend que vous vous tourniez vers lui dans la foi, que vous le cherchiez de tout votre cœur, et alors vous le trouverez, car Jésus a payé le prix de sa vie pour cela. Il est vivant et il a promis, je cite, « Qui cherche trouve » dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 8. Et voici encore deux autres promesses dans ce psaume 34, verset 7. « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Fin de citation. Peut-être vous vous souciez du lendemain avec la crise économique engendrée par le Covid-19. Eh bien voilà une autre promesse pour vous, si vous placez votre confiance en Dieu. Le verset 9, je cite, « Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Pour qui sont ces promesses? Pour tout le monde? Non. Elles sont pour, je cite, « ceux qui craignent l'Éternel ». Alors voyons ça d'un peu plus près. Mais comment rester indifférent devant cette œuvre magistrale de Dieu? Quelle réponse Dieu attend-il de l'homme? Eh bien, voyons le troisième point, la réponse que l'homme peut offrir à Dieu. Voyons celle de David déjà. Devant la délivrance totale dont David a été l'objet de la part de Dieu, son cri de détresse va laisser la place à un cri de louange à Dieu. Il commence son psaume en exprimant toute sa reconnaissance envers Dieu qui l'a sauvé par un déluge de louanges. Verset 1, je cite, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Fin de citation. Et remarquez l'insistance avec des mots tels que « toujours » en tout temps. Remarquez aussi le temps au futur, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » David avait pris la résolution de toujours louer Dieu, quoi qu'il arrive, car l'amour de Dieu et sa fidélité ne dépendent pas des circonstances. Et c'est une invitation pour nous à louer Dieu sans cesse, dans les bons comme dans les mauvais moments. Le louer est l'expression de notre confiance en lui et nous redonne courage dans les moments de peur. Verset 2, je cite, « Que mon âme se glorifie en l'Éternel. » David dit littéralement à Dieu qu'il est fier de lui. Puis il dit au verset 5, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Fin de citation. La fierté, c'est tout le contraire de la honte. Vous voulez ne plus avoir honte ou rougir? Faites de Dieu votre fierté. Si on regarde à nous-mêmes, honte, angoisse et découragement peuvent venir si Dieu n'est pas notre fierté. Ne faisons pas dépendre notre identité de nos performances, de nos origines, de nos diplômes, de nos richesses, mais plutôt de qui est Dieu et de ce qu'il a fait par amour pour nous en Jésus-Christ. Alors, nous aurons une juste vision de notre valeur personnelle et nous serons mieux à même de bien réagir devant un danger réel ou imaginaire en regardant à Dieu. Mais la joie du psalmiste ne s'arrête pas à louer Dieu. David connaissait et aimait Dieu, il avait une relation personnelle avec lui. Mais il ne voulait ni ne pouvait garder pour lui seul la joie de sa délivrance. Lorsque vous voyez des étudiants exploser de joie parce qu'ils ont eu leur bac, ils sautent au cou de leurs amis. David, lui, voulait fortifier le peuple de Dieu en l'invitant à louer Dieu avec lui à cause de sa délivrance. Verset 3, je cite, « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. » Fin de citation. La peur grandit parce qu'elle est contagieuse, tout le monde avait peur du géant Goliath, sauf David. Inversement, la confiance en Dieu est aussi contagieuse et se partage. Lorsque David a vaincu Goliath, tout le peuple a repris courage. Et David pouvait dire, à la fin du verset 4, je cite, « Dieu m'a délivré de toutes mes frayeurs ». C'est pourquoi il peut se permettre d'affirmer la même chose pour ceux qui font confiance en Dieu. Je cite la fin du verset 17, « Dieu les délivre de toute leur détresse ». Fin de citation. La grande vérité que Dieu veut nous enseigner ici, et c'était une véritable pépite, la grande vérité que Dieu veut nous enseigner par la bouche de son serviteur David, vérité qui est le remède par excellence contre la peur, est celle-ci. Vous ne voulez plus craindre les hommes ? Eh bien, craignez Dieu. Vous ne voulez plus craindre les hommes ? Eh bien, craignez Dieu. Alors, on peut se poser la question, c'est quoi craindre Dieu ? David, regardez ce que le verset 11, David voulait enseigner au peuple la crainte de l'Éternel. Je cite, « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Fin de citation. Alors, cette crainte de Dieu est toute différente de celle devant un danger. Gilles Georgel a dit « La frayeur paralyse et menace. La crainte de Dieu libère, car elle nous élève au-dessus du danger. » En effet, Dieu est plus grand que n'importe quelle menace. Il ne s'agit pas d'une crainte paralysante, mais d'un profond respect, amour et confiance envers un Dieu si grand et si bon. Les versets suivants précisent ce que veut dire craindre Dieu de façon pratique, et on y retrouve toute l'éthique de la vie chrétienne. Après avoir expérimenté personnellement le salut de Dieu, voici ce que nous enseigne David. Premièrement, garde ta langue. Verset 13, je cite, « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » David savait de quoi il parlait. Lui qui était déjà l'objet de critiques et de jalousie, et qui avait succombé à la peur en mentant au prêtre. Aussi pour nous, eh bien, garder notre langue signifie dire la vérité et s'éloigner des critiques. Et un bon moyen pour cela est de louer Dieu en tout temps, ce que nous exhorte David au verset 1. Le temps passé à louer Dieu avec notre bouche est autant de temps en moins à critiquer un tel ou un tel. Deuxièmement, la crainte de Dieu, c'est de s'éloigner du mal et faire le bien. Verset 14, je cite, « Éloigne-toi du mal et fais le bien. » Quand Dieu nous sauve, ce n'est pas pour que nous continuions à faire le mal. Dieu aime et appelle le pécheur tel qu'il est au salut, mais il ne l'appelle pas à rester tel qu'il est. Il est saint et nous appelle à lui ressembler, en regardant à lui, parce que par nous-mêmes nous ne pouvons pas. Et j'aimerais prendre une petite illustration. Est-ce que vous avez déjà observé des tournesols ? Il y en a ici beaucoup ici dans la région. Est-ce que vous avez remarqué que les tournesols sont toujours tournés vers le soleil et ils finissent par lui ressembler ? Ils sont jaunes, ils sont ronds, comme le soleil, et ils ont des pétales en guise de rayons. Eh bien, nous regardons à Jésus et nous allons finir par lui ressembler. Et le seul moyen de nous éloigner du mal, eh bien, c'est de faire le bien. Faire le bien, vivre pour Dieu, sera autant de temps en moins à faire le mal. Et enfin, craindre Dieu, ça veut dire aussi rechercher et poursuivre la paix. Au verset 14, je cite, « Recherche et poursuit la paix ». Le mot « poursuivre » est fort. Il signifie « persécuter » littéralement. Persécute la paix, ne la laisse pas tranquille, ne la laisse pas en paix. Recherche-la, poursuis-la ardemment pour la garder. Dieu est appelé le Sauveur. C'est ainsi qu'il se fait connaître à David et à nous. Ce salut, c'est à chacun de l'expérimenter. Je ne peux pas croire à votre place, ni vous à ma place. nos arguments, notre connaissance biblique, notre force de persuasion prennent fin là où c'est à vous d'expérimenter vous-même le salut de Dieu en Jésus-Christ, si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous avez soif, je peux vous parler longuement dans les détails d'un verre d'eau, bien fraîche et qui déborde. Mais cela n'étanchera pas votre soif, à moins que vous n'y goûtiez vous-même. Ça serait dommage de mourir de soif, n'est-ce pas? Alors à chacun de goûter par lui-même que Dieu est bon, comme le dit ce psaume. Le bien et la joie suprême offerts à tous consistent à connaître personnellement le Seigneur Jésus et à être connu de lui. Mais est-ce que ça veut dire qu'une fois devenu chrétien, on n'a plus de problème? Eh bien non. D'ailleurs, la parole de Dieu, elle est vraie. Regardez ce que dit le verset 19. Le malheur atteint souvent le juste. Alors vous êtes prévenus. Ne soyez pas donc surpris s'il y a des épreuves qui vous tombent dessus, parce que vous êtes chrétien, et qui vous tombent dessus souvent. Mais regardez la fin du verset. Je cite le verset en entier, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Fin de citation. Dieu nous fait cette autre promesse qu'il nous en délivre toujours, même si toujours ne veut pas dire immédiatement. Nous sommes le dimanche après l'Ascension. Avant de remonter au ciel, Jésus, ressuscité, a promis d'être tous les jours avec ses disciples. Matthieu chapitre 28, verset 20. Voilà pourquoi il peut nous délivrer. Observez encore, pour terminer, observez encore les tournesols. Tout le jour, ils sont tournés vers le soleil et suivent sa course d'est en ouest. Et quand le soleil se couche, ils s'orientent de nouveau vers l'est pendant la nuit, attendant son lever pour être déjà tournés vers lui au matin. Quand survient l'adversité, la peur, comment réagissons-nous? Eh bien, attendons-nous au Seigneur en nous tournant vers lui avec l'assurance qu'il viendra aussi sûrement que le soleil se lève à l'est.